Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux que je n'ai pas encore vus. Et je voudrais ce matin vous parler d'un sujet. C'est par la foi, le sujet de la foi. La foi, nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Mais on a toujours une foi en quelque chose, parce que nous qui croyons que Dieu a créé le monde, nous avons la foi en Dieu, mais ceux qui disent que le monde est venu comme ça, ils ont encore une plus grande foi que nous, parce qu'il faut encore le croire. De rien, il y a eu quelque chose. Hein. Donc, on a toujours la foi en quelque chose. Si nous avons cette foi, nous, les chrétiens, eh bien, elle est peut-être très grande. Il y en a qui ont une très grande foi, jusqu'à transporter des montagnes, comme disait le Seigneur, ou peut-être notre foi est très petite. Et parfois, parfois et même souvent, nous trébuchons, perdons la foi. Mais en tant que chrétiens, nous avons tous la foi. Parce que déjà, nous sommes devenus chrétiens par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous avons un grand exemple de foi. Au chapitre 11, nous voyons ce que nous appelons les héros de la foi. Leur exemple doit aussi nous inspirer, frères et sœurs, pour que nous puissions faire partie de cette liste de héros de la foi. Mais je vais d'abord commencer par le chapitre 12 des Hébreux, les trois premiers versets. Chapitre 12 d'Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. La parole de Dieu nous parle, nous disant que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Qui sont-ils, ces témoins dont nous parle l'Épître aux Hébreux? Eh bien, nous avons une liste de personnes, de personnages connus, ou certains très anonymes, ayant exercé leur foi d'une façon vivante, profonde, forte. Ce sont pour nous des exemples pour notre foi, pour nourrir notre foi. Car quand nous sommes découragés, eh bien, frères et sœurs, relisons le chapitre 11 des Hébreux, et ça nous donnera du courage pour avancer, pour approfondir, pour fortifier notre foi. Notre foi qui est souvent chargée de fardeaux qui sont trop lourds pour nous à porter, et que nous portons bien souvent à la place du Seigneur, au lieu de laisser au pied de la croix, afin de nous sentir beaucoup plus léger. Et notre foi sera alors fortifiée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande de rejeter tous ces fardeaux. Rejeter les fardeaux qui nous pèsent. Rejeter ce péché qui nous colle à la peau. Reconnaissons-le. Malgré que nous avons été pardonnés, nous restons des pécheurs pardonnés. Et malgré tout, le péché vient parfois et même souvent nous entraver notre foi. Nous colle à la peau, nous empêchant d'avancer et d'exercer notre foi parce que nous nous sentons souvent coupables d'avoir chuté, d'avoir perdu la foi. Car dans la parole de Dieu, il nous est demandé de courir. Or, comment courir si nous sommes toujours chargés par le fardeau du péché? Comment notre foi peut-elle donc s'exercer? Il nous est demandé de courir, même au sein des épreuves. Nous ne devons pas nous arrêter de courir malgré les épreuves qui nous accablent. Si nous voyons les sportifs, et le Tour de France a commencé, et ce n'est pas une mince affaire que le cyclisme, c'est un des sports les plus durs. Et bien souvent, on a des défaillances, et pourtant, le coureur courageux continue à pédaler, à monter des sommets parce qu'il a envie d'arriver. Et dans notre vie chrétienne, il y a des épreuves de toutes sortes que nous devons affronter, que nous devons franchir. Mais comme ces témoins, nous devons porter le regard vers en haut, le regard vers notre Dieu. Nous devons regarder à Jésus qui fut vainqueur par la foi. Jésus fait naître en nous la foi et la confiance, frères et sœurs. Plus nous serons dans son intimité, plus notre foi grandira et se fortifiera. Et comment être dans l'intimité du Seigneur? Mais comme nous l'a rappelé Jean-Luc ce matin, la parole, cette parole que nous devons méditer, cette parole dont nous devons nous nourrir, comme nous nous nourrissons tous les jours pour notre corps, nous mangeons, nous buvons tous les jours, eh bien, tous les jours, dans la mesure du possible, nous devons lire, approfondir notre connaissance de la parole de Dieu pour être enseignés, pour fortifier notre foi. Nous devons prier, nous devons être en contact avec notre Dieu afin qu'il nous soutienne, qu'il nous fortifie, qu'il nous guide. Jésus a été jusqu'au bout, frères et sœurs, car il avait foi en son Père, lui le Fils de Dieu. Il a tout misé sur son Père. Il avait une foi inébranlable envers lui, afin que son Père puisse l'aider jusqu'au bout de la mission qu'il devait accomplir. Sans la foi, frères et sœurs, en notre Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, nous ne pouvons rien obtenir. Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Une des grandes conditions, c'est de posséder la foi. Et si nous possédons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Comment être agréable à Dieu si nous n'avons pas confiance en lui? La foi, c'est une confiance en lui. Nous ne pouvons pas nous réclamer chrétiens si nous n'avons pas la foi. Nous ne pouvons pas nous réclamer enfants de Dieu si nous n'avons pas une confiance totale, inébranlable, sans limite envers notre Dieu. Un abandon total à lui, croyant qu'il nous guide en tout temps et en toutes circonstances. Or, la foi, nous est dit la parole de Dieu, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est faire confiance, quelque part aveuglément à Dieu, afin qu'il nous dirige. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous ne les avons pas encore, les réponses à nos prières. Nous espérons qu'il va répondre. C'est ça, cette confiance que nous devons avoir en Dieu. Et nous, les humains, nous sommes ainsi, nous n'aimons pas l'inconnu. Nous n'aimons pas l'inconnu. Nous n'aimons pas ne pas avoir de programme, parce que c'est quelque chose qui nous tiraille. On veut savoir. C'est ainsi que beaucoup vont consulter des voyantes, des médiums pour connaître l'avenir. Parce qu'on a peur. On aimerait tant pouvoir savoir quand le Seigneur reviendra. On aimerait tant savoir si Dieu va répondre, si cette guerre va se terminer, si ceci va arriver. C'est en nous. Et nous n'aimons pas les surprises. Nous aimons savoir. Mais Dieu ne révèle pas son plan dans son entièreté, frères et sœurs. Il nous révèle progressivement sa volonté. Pourquoi cela? Je crois que si Dieu nous révélait vraiment le plan ou le déroulement de notre vie, ça ne nous plairait pas. Si Dieu m'avait dit tout ce que j'allais vivre jusqu'à présent, je pense que c'était à la peur au ventre que je vivrais. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, d'avoir cette foi en lui. Car nous ne serions plus certainement dans cette communauté. On n'aurait plus envie de vivre si on savait le déroulement de notre vie. Alors Dieu distille son plan progressivement, afin que nous lui fassions confiance. Et je voudrais voir brièvement quelques témoins dont il nous est parlé, qui pourraient nous regarder pour l'instant, mais Il ne nous regarde pas. Je fais ici une petite parenthèse parce que des fois, je vois même des âneries que même les chrétiens disent. Quand quelqu'un décède, on dit « Ah, mais ta maman, elle est là. Elle te regarde, elle te protège. Elle te surveille. » Non, frères et sœurs, c'est un peu une métaphore. Si ces témoins-là nous regardent, non, ils ne nous regardent pas. Parce que, imaginez quelqu'un, une femme qui aurait perdu son mari et que son mari la regarderait du haut du ciel et qu'elle voit qu'elle refait sa vie avec quelqu'un d'autre, le pauvre, il ne serait pas dans un repos éternel de voir qu'elle a choisi quelqu'un d'autre. Donc, frères et sœurs, nous ne disons pas des âneries, nos défunts ne nous regardent pas. Pour ceux qui sont en Christ, ils sont dans le repos, les autres sont dans les tourments. Mais j'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis, certains chrétiens qui disaient même, oui, ta maman est là, elle te surveille, elle te protège. Non, non, ils sont dans le repos de Dieu pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, un des témoins qui pourrait éventuellement nous regarder, eh bien, c'est Noé. Au chapitre 11, verset 7, il nous est dit, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, cet homme qui est un exemple extraordinaire, qui a une foi extraordinaire, qui accomplit quelque chose d'insensé. Imaginez-vous, vous avez une grande pelouse et vous êtes à des kilomètres de la Meuse, à des kilomètres de la mer, et on vous dit, tu vas construire un bateau et ce bateau va naviguer, l'eau va venir jusqu'à toi. Et c'est ce que Dieu a dit, en quelque sorte, à Noé, construis un bateau, je te sauve parce que le monde devient mauvais, je résume, et je sauverai ta famille avec ta famille et les animaux de chaque, deux, un mâle, une femelle de chaque espèce. Ils vont rentrer dans cette arche. Donc cet homme a commencé à construire quelque chose d'irréel et d'insensé. Il a dû certainement recevoir pas mal de moqueries de ses contemporains, de dire « Mais que fais-tu, Noé ?» Il y a un chant qui est justement, qui dit ceci, « Que fais-tu, Noé ?»« Que fais-tu, Noé ?» Et je me suis construit un bateau, parce que Dieu m'a dit que l'eau va arriver et je serai sauvé ainsi que ma famille. Mais convertissez-vous. Mais personne ne prenait au sérieux. Nous ne voyons nulle part dans l'Écriture que Noé se révolte ou que Noé dit à Dieu « Mais c'est insensé ce que tu me demandes là de faire. » À aucun moment Noé n'a hésité. Enfin, la parole de Dieu ne nous le dit pas. Il avait une foi en son Dieu que ce que Dieu lui annonçait, il allait l'accomplir. Ce bateau était sa planche de salut pour lui, pour sa famille et pour l'espèce animale. C'est par la foi. C'est par la foi, par cette confiance inébranlable en son Dieu, qu'il a accompli cette mission et que Noé a été sauvé et que le monde a pu être sauvé à nouveau en se reproduisant par la suite. Voilà un des témoins qui pourrait nous regarder et nous dire « Regarde la foi que j'ai mise en mon Dieu. J'ai accompli quelque chose d'insensé, mais Dieu a réalisé ce qu'il avait promis. Je vais plus loin, au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il entendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi qu'Abraham quitte son confort. Au fond, Abraham n'a besoin de rien. Il vit confortablement, il est riche, il a des troupeaux, il a de l'argent, il a des serviteurs, il a une famille qu'il aime, il est entouré de ses frères et ses parents. Et il était bien installé dans son confort. Et puis, il y a un appel de Dieu qui vient bouleverser ce confort-là. Moi, je présume que si Abraham a entendu l'appel de Dieu, c'est qu'Abraham déjà connaissait Dieu, qu'il le servait dans son intégrité et que Dieu a trouvé que cet homme était intègre pour pouvoir accomplir une grande œuvre de foi. Et cet appel vient troubler et bouleverser sa vie. Il faut partir à l'aventure en faisant confiance à Dieu, car il y avait une promesse à la clé. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham n'était plus tout jeune, Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui promet quelque chose d'insensé, d'irréel, d'impossible. Mais la parole de Dieu, rien n'est impossible à notre Dieu. Et pendant de longues années, Abraham a vécu par la foi. Et il était loin d'être une grande nation. Et Dieu lui a demandé de compter les étoiles aussi un jour, pour lui montrer combien cette promesse serait grande quand elle se réalisera, et qu'il deviendrait vraiment une grande nation. Et malgré tout, il est comme nous, Abraham. À un moment donné, il fut pris par le doute. Et parfois, nous doutons aussi de Dieu. Nous doutons parfois de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Dieu m'a-t-il, comme Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, cette voix qui se met à souffler à notre oreille, et nous sommes pris par le doute, Dieu m'a-t-il vraiment dit de faire cela? Dieu m'a-t-il vraiment réellement dit d'aller dans tel lieu, d'accomplir telle ou telle mission? Et puis, comme il a été pris par le doute, il a voulu aider Dieu. Sa femme lui dit, écoute, prends-toi une autre femme et tu vas avoir un enfant avec elle, elle est plus jeune que moi, et voilà, c'est ce que Dieu a certainement voulu lui dire, mais tu n'as pas bien compris. Et malheureusement, il a écouté la voix de sa femme, ce qu'il ne faut pas toujours faire. Je veux faire les ennemis. Des fois, elles ont des bons conseils, je reconnais. Voilà. Soyons vrais. Mais il a écouté la voix de sa femme, et à ce moment-là, ce n'était pas vraiment le conseil de Dieu. Et voilà, pour son malheur, il a eu cette aventure, il a eu un enfant, et ce n'était pas l'enfant de la promesse, et ça lui a causé des ennuis, des problèmes. Et il a craqué. Et Dieu, dans sa bonté, relève notre ami Abraham. Il le remet en selle. Et bien entendu, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. L'enfant de la promesse, Isaac, est né. Mais jusqu'à sa mort, la promesse de Dieu ne s'était pas vraiment accomplie. Ce n'était certainement pas une grande nation que la famille d'Abraham. Il n'avait que Isaac, et puis il y a eu des petits-enfants. Ce n'est que des dizaines et des dizaines d'années après la mort d'Abraham que la promesse de Dieu s'est accomplie, car ses descendants formèrent un peuple nombreux, comme il nous est dit. Les promesses de Dieu sont là. Si nous mettons notre foi, eh bien, Dieu réalisera ce qu'il nous a promis avec le temps, avec les années, peut-être après notre mort, mais nous devons commencer l'œuvre qu'il nous demande de faire et lui la poursuivra. Dieu honore notre foi. Dieu n'avait pas menti à Abraham. Il a pris son temps pour accomplir sa promesse. Mais Abraham, jusqu'à la fin, a gardé la foi et l'espérance en son Dieu. Allons plus loin, au verset 23, toujours de ce chapitre 11. Il nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Quelle foi les parents, parce qu'on parle de Moïse, mais parlons de ses parents. Au fond, si ses parents n'avaient pas eu la foi, ben l'histoire de Moïse n'aurait jamais été écrite dans la parole de Dieu. Les parents de Moïse ont une foi en leur Dieu qu'ils connaissaient et ils ont caché cet enfant jusque quand c'était possible. Ben vous savez qu'un bébé, ça pleure beaucoup. Et il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est de le mettre dans une corbeille sur le Nil, de dire « Advienne que pourra, Dieu prendra soin de cet enfant. » Et nous connaissons tous cette histoire. Nous connaissons tous cette histoire, comment Dieu, dans son grand humour, parce que Dieu a de l'humour, et il s'est servi d'un ennemi du peuple, de la princesse, la fille de Pharaon, qui a recueilli cet enfant, qui a élevé cet enfant, ce Moïse. Et Dieu s'est servi des ennemis du peuple de Dieu pour donner une éducation, une instruction à Moïse, parce que Moïse avait besoin d'avoir une grande connaissance, une grande instruction pour diriger le peuple de Dieu quand il a commencé à être à la tête de ce peuple. Et je pense que l'instruction qu'il a reçue lui a bien servi pour pouvoir diriger le peuple, pour gérer des conflits, etc. Donc Dieu s'est servi de la foi de ses parents. Dieu se servira de ce Moïse, car ses parents ont eu la foi en Dieu pour que cet enfant soit vivant, soit protégé, et délivrera ainsi son peuple. Frères et sœurs, le manque de foi peut faire rater des projets que Dieu a pour chacun d'entre nous. Notre manque de foi peut faire déraper le plan de Dieu, et Dieu doit prendre un autre chemin, parce que un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne, n'ont pas écouté le plan de Dieu, n'ont pas voulu entrer dans la marche par la foi, qui n'est pas une marche facile, je le reconnais. Avoir foi en Dieu, c'est vivre dans l'inconnu, mais en sachant que quelqu'un de grand nous accompagne, que quelqu'un de grand nous entoure, que quelqu'un de grand ne nous abandonnera jamais. Je peux en témoigner de voir combien de fois Dieu est intervenu dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de ma famille, parce que nous avons placé notre foi. Et je pense que vous-même, vous pourrez témoigner de dire « Dieu est intervenu, Dieu a honoré ma foi ». Et si nous regardons cette nuée de témoins qui nous entoure, ils ont eu une vie victorieuse grâce à la foi qu'ils ont mise en Dieu. Et je voudrais lire à partir du verset 32, et je terminerai bientôt, mais verset 32 nous donne un beau résumé. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait. En effet, le temps nous manquerait si nous devrions parler de tous ceux qui ont vécu par la foi. En effet, pour parler de Gédéon, nous savons tous comment Dieu s'est servi de Gédéon, comment Gédéon a eu cette foi extraordinaire en son Dieu pour délivrer aussi le peuple de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ils reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux établit une liste de personnes connues ou inconnues. Nous devinons certaines personnes dont il n'est pas cité leur nom, de qui il s'agit, ayant exercé leur foi afin d'obtenir les promesses de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont gardé la foi malgré les persécutions, et nous voyons des gens qui ont été battus, mis en prison, fermé la gueule de lion, ça c'est Daniel, éteint la puissance du feu, ça c'est les amis de Daniel aussi qui étaient tombés dans une fournaise. Pensons à Jérémie, le prophète, et bien d'autres qui ont vécu des choses terribles, mais qui ont conservé la foi. Des hommes et des femmes qui ont gardé la foi malgré les persécutions, malgré les difficultés. Mais leur confiance en Dieu était plus forte que les difficultés. C'est pour cela que nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui ont gardé la foi. Frères et sœurs, face à ces exemples, nous ne pouvons qu'être confondus d'émotion et d'admiration pour la force qu'ils ont eue. Quand nous pensons à l'Église primitive, les persécutions qu'elles ont subies, et elles ont gardé la foi, pensons à Étienne, pensons à l'apôtre Paul, et Pierre, et tous les autres, Jacques mis à mort, dès le début de l'Église primitive, tous ces martyrs morts sans abjurer leur foi. Quand nous pensons aux souffrances des Huguenots, qui n'ont pas baissé et perdu la foi face aux persécutions, quand nous pensons à ce qui se passait derrière le rideau de fer, quand l'Europe de l'Est était sous la domination communiste, pensons à nos frères et sœurs qui vivent en Chine ou dans certains pays qui ont d'autres religions et qui ne peuvent pas exercer leur foi. Pensons à cette Église persécutée encore de nos jours, qui vit des atrocités, et ces frères et sœurs qui nous encouragent même à ne pas perdre la foi. Quels exemples! Soyons admiratifs de la foi qu'ils ont. Mais quant à nous, nous ne devons pas rester assis à les regarder. Nous devons fortifier notre foi. Car dans nos pays de liberté ou libertins, nous pouvons perdre notre foi parce que nous nous endormons si facilement, parce que nous avons tendance à vivre sur nos acquis. Frères et sœurs, réveillons-nous. On demande souvent, Seigneur, envoie le réveil. Mais le réveil, il est à côté de ta table de nuit, il est en train de sonner. Mais tu pousses pour ne pas te réveiller trop vite, comme certains font. Moi, je connais des gens qui ont plusieurs réveils, comme ça, ils peuvent être, à un moment donné, ils se réveillent. Mais c'est un peu cela que vit l'Église occidentale. Et je reprends ce que j'ai lu en débutant ce message. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Frères et sœurs, ce matin, ne nous décourageons pas. Et c'est facile à dire, vous allez dire, mais c'est vrai que nous sommes souvent découragés et nous perdons notre foi. Mais je nous demande ce matin, moi y compris, de regarder vers Jésus, notre grand exemple qui fait naître en nous la foi, frères et sœurs. Pensons au jusqu'au boutisme de sa part. Il ne s'est pas rétracté, il est allé à la croix. Car il veut, par son exemple, fortifier notre foi, car il sait que nous pouvons être abattus par le découragement. Il veut nous communiquer la force, afin que notre foi ne défaille point. Et Jésus, un jour, a dit à l'apôtre Pierre, avant la crucifixion, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et ce matin, au lieu de Simon, vous allez mettre votre nom. Satan vous a réclamé, toi, toi, mon frère, ma sœur, pour vous cribler comme le froment, pour que tu perdes ta foi, pour que je perde ma foi. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Soyons sûrs, frères et sœurs, que notre Sauveur est là, en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Il dit, Père, tu vois un tel qui fait partie de l'Église de Blaigny, tu vois, il est en train de perdre sa foi, il est abattu. Et Satan le réclame, mais je prie pour qu'il ne perde pas sa foi. Frères et sœurs, Jésus a prié pour Pierre et sa foi n'a pas défailli dans les mauvais jours. Sachons qu'il intercède aussi pour nous auprès du Père afin que nous ne perdions pas la foi. Prions ce matin. Seigneur, viens augmenter ma foi. Apprends-moi à vivre par la foi. Seigneur, merci parce que en ce moment tu pries pour moi. Parce que ça ne va pas aujourd'hui. Parce que je suis en train de perdre la foi. Parce que tel ou tel événement font que je suis en train de craquer. Merci Seigneur de ce que en ce moment tu pries pour que je sois fortifié. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ces exemples. Merci pour cette nuée de témoins. Et parfois, avec humilité, nous pouvons dire « nous ne leur arriverons pas à la cheville ». Mais nous savons qu'en ce moment, tu pries pour nous. Parce que peut-être ce matin, certains sont en train de perdre la foi. Peut-être certains sont en train de craquer. Parce que tel ou tel événement est survenu dans leur vie. Et se disent « à quoi bon continuer la lutte ? À quoi bon continuer la marche ? Il m'arrive tant de choses. Seigneur, tu pries pour nous. » Et nous sommes ce matin heureux de le savoir. Seigneur, merci. Merci de fortifier notre foi. Merci parce qu'en ce moment, tu nous reconstruis, tu nous relèves, tu nous fortifies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton regard d'amour qui se pose sur chacun d'entre nous ce matin, qui nous dit « je t'aime ». Je t'aime d'un amour éternel et je te relève. Seigneur, bénis cette communauté. Visite chacun d'entre nous, Seigneur, reconstruis, fortifie, guéris ce matin. Amen.